France Culture. France Culture, question du soir. Quentin l'a fait.
Le 17 mai dernier, le nouveau pouvoir en place en Syrie a annoncé la création d'une instance dédiée à la justice transitionnelle dans le but, je cite, de faire la lumière sur les violations graves causées par le régime déchu. Alors qu'attendre de cette commission dont les contours restent à définir? Ce processus censé permettre la réconciliation au sein d'un peuple victime de crimes de masse et éprouvé par des années de guerre civile a-t-il des chances d'aboutir? Et si oui, dans quelles conditions? Un invité ce soir pour en parler, Joël Ubrecht. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des études et de la recherche à l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Vous êtes membre du comité de la rédaction de la revue Esprit, co-auteur de l'ouvrage intitulé « La Syrie, le pays brûlé », le livre noir des Assad qui a paru en 2022 aux éditions du Seuil. Et avec moi pour nous accompagner dans cette interview, Julien Bisson. Bonsoir Julien.
Bonsoir Quentin.
Un plaisir de vous retrouver comme chaque mercredi. Vous êtes directeur des rédactions de l'hebdomadaire Le 1. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
Au palais de justice de Homs, les dépôts de plaintes s'accumulent. Un vieux monsieur attend à un guichet, un formulaire à la main.
En 2011,
des hommes sont venus et ont pris ma terre. Ils avaient des armes et ils m'ont dit « Si tu veux la récupérer, t'as qu'à revenir. Je viens porter plainte car je veux récupérer mon terrain légalement et être sûr qu'on ne va pas me le réclamer plus tard. »
Des cas de spoliation de propriété ont été légion pendant la guerre. Le nouveau bâtonnier de Homs, Mohamed Badawi Al-Jouja, ne dort que 5 heures par nuit depuis sa nomination en mars. Son prédécesseur a été remercié car jugé trop proche du parti Baas, le parti des Assad.
Les Syriens ont perdu leurs droits et viennent les réclamer. Ils sont des centaines de milliers à avoir subi l'oppression. Et aujourd'hui, leur est offerte la possibilité d'exiger leurs droits. Par exemple, je suis dans ce bureau, il a été enregistré au nom d'une personne qui s'est attribué illégalement ce bien. Je ne peux pas le louer ni le vendre.
La reconstruction de la Syrie passe aussi par la refonte de son cadre législatif et de son système judiciaire.
Extrait d'un reportage à Homs de Valérie Creva, un reportage de la rédaction de France Culture diffusée le 5 juin dernier. Joël Ubrecht, à quel point la refonte du système de justice en Syrie est-elle absolument déterminante pour reconstruire le pays tout entier ?
Elle l'est, on le voit dans le reportage, pour des questions de conflits fonciers ou pour d'autres natures. Il faut absolument qu'un système de justice se remette en place. Les attentes sont immenses dans un contexte qui est très très compliqué, qui est un contexte de misère économique et sociale, et pas seulement de faiblesse des institutions. 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Mais ce qui frappe...
90%.
Oui. Mais ce qui frappe, c'est quand on va en Syrie, c'est aussi la débrouillardise des citoyens syriens et la population syrienne. On voit des panneaux solaires pour pallier aux coupures d'électricité qui sont permanentes. Hein. On voit des systèmes pour récupérer de l'eau de pluie pour pallier au manque de fournitures d'eau. Et de la même manière, je dirais qu'en termes de justice, on voit aussi des initiatives très locales pour pallier les manquements aujourd'hui des institutions étatiques. Par exemple, à Douma, un conseil de réconciliation qui a été mis en place, qui est conduit par des élites, des notables locaux, qui ont mis en place 5-6 commissions qui, tous les jours, examinent 5-6 affaires pour essayer de trouver des solutions, souvent sur la base de dédommagement, mais des solutions qui sont reconnues par l'appareil judiciaire, même si celui-ci, par la suite, pourrait, s'il l'estime nécessaire, les réouvrir. Et ils sont arrivés le mois dernier, lorsque j'ai pu aller à Douma, ils avaient réglé 150 affaires. Il n'y en avait qu'une, en fait, qui n'avait pas réussi à régler.
Julien Bisson.
Ça, c'est au niveau local, Joël Ubrecht. Au niveau national, l'instance de justice transitionnelle doit aborder, on le cite, le sujet des violations graves causées par le régime déchu de Bachar al-Assad. Concrètement, ça veut dire quoi et qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Alors effectivement, le nouveau pouvoir, très vite, s'est rangé derrière la nécessité et l'a reconnu comme tel de mettre en place un processus de justice transitionnelle sans qu'on sache exactement ce que le nouveau président Ahmed Al-Shara entendait exactement, lui, de son point de vue, par justice transitionnelle. On sait qu'il a eu très vite des discours apaisants, qu'il s'est montré pragmatique, qu'il a mis en place aussi une amnistie pour les membres du régime qui n'avaient pas de sang sur les mains. Et effectivement, il a annoncé la mise en place d'une commission de justice transitionnelle qui a été créée en mai pour rendre justice aux victimes de l'ancien régime. Alors évidemment, ça c'est déjà une limitation qui a été notée et qui n'est pas insignifiante, hein, puisque le système de justice transitionnelle qui se met en place a priori ne devrait pas concerner les victimes des groupes rebelles et des groupes islamistes qui ont rejoint la coalition au pouvoir. Un processus se met en place.
Ce que beaucoup d'associations, par ailleurs, pointent et regrettent d'ores et déjà. Joël Ubrecht, un mot de définition tout de même. On parle depuis le début de cet entretien de justice transitionnelle. Au sens large et en dehors même du cas syrien, de quoi s'agit-il ?
Alors effectivement, quand on parle de justice transitionnelle, on parle d'une justice dans une période de transition, une justice qui, d'une certaine manière, assure la transition au moment où, justement, les institutions de justice peuvent être très faibles, au moment où on sort d'un conflit ou d'un changement de régime, on sort d'une dictature. Et c'est une justice au sens large, puisqu'elle rassemble, je prends la définition onusienne, l'ensemble des mécanismes qu'une société va se donner pour se confronter aux crimes de masse qui ont été commis dans le passé. Et ces mécanismes, ils répondent à des besoins des victimes, selon, et là on va dans la théorie, celle de Louis Jouanet, qui est un magistrat français, expert de l'ONU, ancien cofondateur du syndicat de la magistrature, une figure, qui en a théorisé les quatre piliers, Jouanet, qui définissent la justice transitionnelle, qui sont le droit à la justice, le droit à la vérité, le droit à la réparation et le droit à la non-répétition.
Julien Bisson.
Est-ce que ça veut dire que le but de cette justice transitionnelle, c'est le jugement et la sanction des criminels ? Ou est-ce que c'est une ambition plus large, et notamment de mise en récit de ce qui s'est passé ?
C'est effectivement une ambition plus large de mise en récit de ce qui s'est passé. Donc on a souvent en tête, quand on parle de justice transitionnelle, les commissions vérité réconciliation. Et effectivement, la justice transitionnelle s'est développée en Amérique latine dans des situations où il y avait des amnesties et pas de poursuites pénales qui étaient possibles et où les victimes, notamment de disparitions forcées, voulaient avoir accès à une information, à une vérité sur ce qui s'était passé. Ou alors la commission Vérité et Réconciliation d'Afrique du Sud, qui là, dans le cadre d'une transition, effectivement, pour les crimes de nature politique, accorder une amnistie en échange d'aveux et d'une collaboration des auteurs pour répondre aux questions de leurs victimes. Ça, c'est un aspect. L'aspect pénal, tout de même aujourd'hui, est mieux intégré qu'il ne pouvait l'être que dans ces situations où l'amnistie semblait tout bloquer au niveau des poursuites pénales, ou en Afrique du Sud, où il y avait même eu une sorte de construction d'un discours où la justice pénale serait une justice vengeresse, et puis la commission vérité qui apportait une justice de réconciliation. Aujourd'hui, on est quand même passé dans un autre modèle qui intègre davantage le volet pénal, mais aussi en place des programmes de réparation et des réformes pour éviter les répétitions. Un modèle aujourd'hui très, très, très étudiant, celui qui a été mis en place en Colombie parce qu'il se dote d'un ensemble de mécanismes, hein, une commission vérité-réconciliation, un tribunal spécial pour la paix, une unité de recherche des disparus et puis un accord de paix qui lui-même va organiser une démilitarisation, va organiser la reconversion des partis des FARC, l'ancienne guérilla en groupe politique. Un partage des terres. Donc, vous voyez, c'est tout un ensemble qui se met en place. On est finalement, on s'est éloigné du modèle beaucoup plus restreint de la commission vérité réconciliation d'Afrique du Sud, avec une commission vérité qui n'était même pas allée au bout d'ailleurs de sa démarche, parce qu'elle n'avait pas engagé des poursuites contre ceux qui n'avaient pas d'amnistie, et qui n'était pas allée aussi loin sur le terrain des réparations et de la non-répétition.
On reviendra peut-être à la Colombie justement pour tirer ce fil-là, mais je reviens un instant au cas syrien. Pourquoi alors ce concept de justice transitionnelle a-t-il été mis au cœur du discours du nouveau pouvoir syrien, et ce depuis décembre, puisque son principal représentant l'a même érigé en principe constitutionnel ?
Alors probablement il y a deux facteurs qui ont joué. L'un sur lequel on pourra revenir après, qui est qu'il avait quand même, c'est un pouvoir finalement qui arrivait presque de manière inattendue dans la facilité qu'il a eu finalement à s'emparer du pouvoir, alors qu'il venait d'une région où finalement il avait peu d'hommes, où il avait un pouvoir qui certes s'est exercé depuis quelques années, mais mais peu d'expérience, et finalement c'est un pouvoir qui se met en place qui est tout de même assez faible, hein, qui du coup doit se montrer pragmatique vis-à-vis d'une société qu'il a en face de lui, et cette société qu'il a en face de lui est une société qui, elle, s'était engagée sur les questions de justice depuis longtemps. Alors évidemment, beaucoup plus activement en exil, puisque c'était possible de le faire là, mais là, en exil, on avait depuis 15 ans des militants syriens qui avaient fait de la documentation sur les crimes, qui avaient monté des dossiers de plainte, hein, pour poursuivre en justice des auteurs du régime, et c'est cette société, c'est aussi une réponse à cette société-là qu'il devait apporter. Et cette société, en partie dans sa partie la plus activiste, elle portait déjà un discours de justice transitionnelle. Elle avait déjà pensé à la justice transitionnelle. Par ailleurs, le pouvoir, ça c'est l'autre facteur, lui, en mettant en place l'amnistie, probablement pense que en parlant d'une justice transitionnelle, donc justement d'une multiplicité de mécanismes, il peut éviter d'aller directement, frontalement, sur la question des poursuites pénales et d'une justice de cette nature-là, pour essayer d'aménager d'une certaine manière aussi une paix sociale.
Julien Bisson.
Concrètement, quand on est, Jolie Brèche, quand on est dans le cas syrien, on sort de plusieurs décennies de dictature, on sort de plusieurs années d'une guerre civile meurtrière, plusieurs centaines de milliers de morts, 100 000 disparus. Comment est-ce qu'on fait pour garantir le principe d'impartialité ? Comment on peut éviter l'esprit de revanche que pourrait avoir une faction sur une autre ?
Alors, c'est toute la difficulté sans doute pour ce nouveau pouvoir, effectivement, dont on mesure mal aujourd'hui dans ce qui fait quelle est la part d'incapacité ou de mauvaise volonté dans, par exemple, la répression des massacres qui ont été commis au mois de mars. On sait qu'il a donc que le président El-Shaarah a mis en place une commission pour mettre en lumière les responsabilités d'auteurs de massacres dont on sait qu'au moins un certain nombre sont liés au nouveau régime.
Massacres qui ont causé 1700 morts au sein de la communauté alaouite.
Voilà, exactement.
Et donc, communauté alaouite qui, par ailleurs, est la communauté originelle de Bachar el-Assad.
Voilà, d'où effectivement cet engrenage aussi. Hein. Et on attend ce rapport, il ne devrait pas tarder. Et donc on verra quelles seront les à ce moment-là, peut-être mieux, quelles seront les capacités ou la volonté du nouveau pouvoir. Je dirais en face, parce que c'est toujours de cette manière-là que j'ai réfléchi à cette question-là. C'est-à-dire, justement, il ne faut pas penser le processus de justice transitionnelle comme étant un processus uniquement aux mains du pouvoir. C'est un processus qui est aussi mis en œuvre aujourd'hui par la société. Et on a vraiment une dynamique qui vient du bas et une dynamique qui vient par le haut. Et aujourd'hui, je dirais, cette double dynamique peut être porteuse d'espoir, mais elle ne s'est pas encore articulée et vraiment rencontrée. Et évidemment, les signes venant du haut peuvent susciter quelques inquiétudes. Par exemple, donc la limitation des poursuites qui fait qu'effectivement, on risque d'aller peut-être, si le pouvoir s'en tient à cette ligne-là, vers une justice transitionnelle de vainqueur plutôt que vers une justice impartiale. Alors que du côté des initiatives qui sont prises par la société civile syrienne, on a par exemple une exposition qui a été montée au musée national de Damas à partir d'un fonds d'archives et d'œuvres sur les disparus et les prisonniers qui couvrait à la fois les crimes qui ont été les plus massifs, hein, les prisons du régime, qui était un véritable système concentrationnaire, mais aussi les victimes des groupes islamistes. Et donc, par exemple, dans l'exposition, on trouve les quatre disparus de Douma, qui sont quatre activistes très connus, Razan Zaitouneh notamment, qui ont été enlevés par un groupe islamiste, Jaïch al-Islam, qui aujourd'hui a rejoint la coalition au pouvoir et qui donc, du point de vue de la justice transitionnelle par le haut, voilà, peut-être on ne lui demandera pas de compte, mais du point de vue de la justice transitionnelle par le bas, aujourd'hui, on leur demande des comptes.
Un autre enjeu fondamental également, Joël Ubrecht, pour la reconstruction de ce pays, c'est sans doute la débaasification de la justice syrienne. La débaasification étant le fait que la justice, jusqu'alors, jusqu'en décembre, était tenue par les représentants du parti Baas, le parti, là aussi, de Bachar el-Assad. Il y a quelques semaines, 87 anciens juges ont été placés sous enquête par le ministère de la Justice pour enclencher, justement, cette débaasification. Quel est l'enjeu et combien de temps cela devrait-il prendre, justement ?
Évidemment, le pays sort d'une dictature d'un demi-siècle, d'une cinquantaine d'années, et donc tous les appareils institutionnels. Alors après, c'est un peu plus compliqué que ça parce que le pouvoir, disons, exercer sa répression et sa mainmise de terreur au travers d'organes de renseignement, de tout un système de contrôle et de répression, une partie du système, même une partie du gouvernement dont le Premier ministre a assuré la transition entre le nouveau pouvoir et puis la fuite du clan des Assad. Dans ces institutions, voilà, on n'avait pas que des sbires convaincus, cruels, qui cherchent. Donc les choses, mais on avait un système très corrompu par contre. Mais la corruption, elle venait du système de la dictature elle-même qui fonctionnait sur cette corruption, mais elle vient aussi de la situation sociale et économique qui est terrible. Et ça, aujourd'hui, on n'en est pas complètement sorti. Mais donc, l'enjeu, effectivement, de reconstruction et de réforme des institutions, elle est indispensable. Ça veut dire aussi, d'ailleurs, réforme législative, parce que la loi n'est aujourd'hui pas du tout. Je veux dire, par exemple, le crime contre l'humanité, évidemment, ne faisait pas partie de la loi syrienne. Et donc, un ensemble de réformes qui vont prendre du temps, c'est certain, doivent se mettre en place. Et donc, en fait, la justice transitionnelle, on s'attend pas à ce qu'elle soit rendue le mois prochain pour que le pays soit réconcilié dans 3 mois. C'est évidemment un processus très long qui va se mettre en place. Et c'est dans la durée que finalement la qualité même de ce processus peut prospérer.
Julien Bisson.
On parle ici des juges. Est-ce qu'on sait déjà qui seront les personnes qui seront les premières jugées par cette justice transitionnelle ? Est-ce que ce seront les hauts dignitaires du régime ou est-ce que ce seront plutôt les petites mains ?
Alors, les Assad, la famille Assad elle-même, s'est enfuie du pays. On sait donc que Bachar et sa femme sont en Russie. On ne sait pas trop où est son frère, Maher el-Assad, qui était aussi un responsable militaire de très haut rang. Donc, les figures les plus prééminentes de l'ancien régime, malheureusement, sont ou à l'extérieur ou réfugiées, alors peut-être au Liban, peut-être dans des zones en Syrie, on ne le sait pas. Parce qu'on a effectivement sous la main beaucoup plus de responsables d'un niveau moyen ou plus petit. Alors ce qu'on voit sur le terrain, c'est que plusieurs choses. C'est que donc, ce processus d'amnistie s'est mis en place pour ceux qui n'avaient pas de sang sur les mains. On sait que, y compris pour certains qui avaient du sang sur les mains, lorsqu'ils étaient en mesure d'animer, disons, un réseau milicien de nature à éventuellement déstabiliser ou redéstabiliser la situation, le pouvoir a pu transiger. On l'a vu à Tadamon, par exemple, a pu transiger pour essayer de conserver une sorte de paix sociale et de fermer un œil sur les responsabilités de tel ou tel. Par ailleurs, mais on ignore aujourd'hui, on ignore beaucoup de choses. L'information, évidemment, heureusement, n'est plus la propagande de l'ancien régime, mais elle reste encore très lacunaire. Et notamment en termes de responsables ou de criminels qui ont été arrêtés, voilà. Peu d'informations, où est-ce qu'ils sont, dans quelles conditions, qu'est-ce qui va être fait, on l'ignore. Et de la même manière, je dirais, pour là retourner le miroir, du côté de ceux qui conduisent la commission de justice transitionnelle, donc pour l'instant, la personne qu'on connaît, c'est la personne qui va diriger, qui va mettre, on ne connaît pas la composition de la commission justice transitionnelle, mais cette personne-là est issue d'une branche militaire, d'un groupe qui avait allié l'armée libre libre syrienne et allier le nouveau pouvoir, mais qui n'est pas quelqu'un qui était connu spécialement par la société, le civil, comme une personne représentative des questions de justice. Donc, on a beaucoup d'incertitudes. Je veux dire, on a beaucoup d'incertitudes. On manque de beaucoup d'informations sur ce point. Alors, certaines vont arriver en leur temps. D'autres, évidemment, manquent et ça peut être aussi inquiétant.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'un homme que vous connaissez bien intellectuellement, au moins, Joël Ubrecht. C'est un rescapé des terribles prisons d'Hafez al-Assad et d'Al-Assad en général, clandestin dans son propre pays, puis exilé. Il est revenu pour la première fois en Syrie le 1er janvier dernier à Douma. Il s'appelle Yassine Al-Hach Saleh.
Écoutez, depuis 2013, il ne s'agit plus de la Syrie. Le destin de la Syrie est sorti des mains des Syriens, y compris du régime. Ma place correcte, si on peut dire, est en Syrie. J'ai une femme disparue, des amis disparus. J'ai envie de les chercher. Je veux découvrir la vérité, mais aussi je veux l'intérêt de mon pays. J'ai vécu plus de 50 ans en Syrie. Le cycle se terminera avec mon retour à mon pays en Syrie.
Qui est cet homme, Joël Ubrecht ?
Alors, Yassine Al-Hach Saleh est un opposant au régime, un intellectuel, une figure de la réflexion des Syriens. Il a fondé la revue El Jumhuria. Il a publié un grand nombre de livres, dont 4 qui ont été traduits en français, dont celui publié récemment, qu'ils appellent Sur la liberté, la maison, la prison, l'exil et le monde, et qui effectivement a été pour moi une source inspirante pour essayer de penser justement la justice transitionnelle, en essayant, parce que voilà, la justice transitionnelle qui va se mettre en place, c'est pas l'ONU qui va la concevoir, et c'est les Syriens qui vont la bâtir. Et comme vous l'expliquiez auparavant, il y a cette dynamique par le bas, c'est-à-dire on a d'une certaine manière des maçons de la justice transitionnelle qui ont commencé à travailler sans avoir forcément les plans, sans qu'on sache ce que l'architecte El-Shara lui voudra faire. On a une maison qui se met en place, et cette notion de maison qu'utilise Yassine El-Hach Saleh dans sa réflexion sur la liberté, je l'ai trouvée très intéressante dans la manière dont il utilise. Je vous cite un passage de son ouvrage. Il utilise la notion de maison, évidemment, en opposition à celle de prison, dans laquelle il a été enfermé, lui, durant 16 années, dans les années 80 et 90. Le grand problème, dit-il, le grand problème de la modernité dans le monde arabe a été son incapacité à produire une société et à constituer elle-même une maison dans nos sociétés. Elle est restée une propriété privée, le domaine d'un petit nombre, ceux qui occupent le sommet de la pyramide politique et sociale. Elle n'a pas posé de nouvelles bases de contrôle du pouvoir, elle n'a pas pris le parti de l'individu, ni garanti la liberté de penser. Notre modernité n'a pas de maison. Et en utilisant cette image de la maison, Yassine El-Hach Saleh permet de penser la justice transitionnelle autrement que par les piliers joannés, autrement que par des dispositifs ou par des systèmes. Il permet de penser des espaces. Il permet de poser les questions en termes de temps et d'espace, en termes de circulation, en termes d'aménagement, c'est-à-dire d'articulation. Et de cette manière-là, il évacue un certain nombre d'idées fausses de la justice transitionnelle, à savoir que la justice transitionnelle serait un recommencement. Mais non, il n'y a pas d'année zéro aujourd'hui de la Syrie. C'est pas un recommencement, c'est une remise en mouvement. C'est autre chose. La justice transitionnelle serait une guérison collective. Non, il y a la question de l'individu qui se pose aussi. La justice transitionnelle serait meilleure, plus pure, parce que elle ne serait pas contaminée par la politique. Mais non, il y a un lien intrinsèque entre justice et politique.
Julien Bisson.
Vous l'avez dit, justement, parmi ces piliers, il y a l'articulation entre l'intime et le commun. Ça peut paraître un peu étonnant. On voit ça, justement, ces grands processus de justice transitionnelle comme des grands processus de réparation collective. En quoi est-ce que l'individu rentre, justement, dans ce jeu ?
C'est fondamental. Je me permets de vous reciter un autre passage.
Avec plaisir.
Qui en plus a une plume admirable. Le geste de s'extraire de chez soi, comme celui d'ouvrir son intérieur à l'extérieur et d'en accepter le changement, élargit notre monde. Cela nous met en liberté. comme dans l'expression juridique de mise en liberté, celle de nous déplacer entre le propre et le commun. Entre le propre et le commun, c'est ça, c'est cette articulation entre l'individu et le collectif. La circulation entre société, communauté, individu. On voit bien que le nouveau président, El-Shara, il vient d'un courant islamiste qui a une vision communautariste de l'avenir du pays. Alors c'est heureusement une vision plus apaisée, une vision pacifiée entre communautés, mais c'est une vision communautariste. Alors que la question de l'individu est centrale. Et ça peut être un piège, parce que la justice transitionnelle, elle a souvent rabattu le discours, notamment une sorte de discours psychologique, médico-psychologique, de la reconstruction individuelle sur la reconstruction collective, en pointant comme si on allait pouvoir sortir de la violence et guérir en se réconciliant. Mais la question de l'individu, elle ne se traite pas que collectivement, il n'y a pas de catharsis qui puisse guérir les individus. Et ça, une psychologue de la justice transitionnelle comme Françoise Cironi, en développant le concept d'inconscient politique, a montré ce nœud justement entre les individus et le collectif.
Merci beaucoup, Joël Ubrecht. Vous êtes responsable des études et de la recherche à l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, le co-auteur aussi de cet ouvrage intitulé « La Syrie, le pays brûlé, le livre noir des Assad » qui a paru au Seuil en 2022. Je me tourne vers vous, Julien Bisson. Qu'est-ce que l'on trouve cette semaine dans l'hebdomadaire Le 1, un voyage?
Oui, un voyage plus près de chez nous, puisqu'on vous propose un voyage dans la France des narcos. De quel poids pèse l'économie des stupéfiants? Est-ce qu'il faut privilégier répression, prévention ou dépénalisation, un débat explosif, des réponses documentées.
Merci à vous deux d'être venus ce soir dans Question du soir.